Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec au programme les derniers développements du scrutin américain. Joe Biden devant Donald Trump d'une courte tête, mais rien n'est joué. 19h15, la carte blanche du Club des Idées. Le coup de griffe ce soir de l'entrepreneur Alexandre Malafaï contre la gestion de crise sanitaire du gouvernement. 19h20, le débat du Club des Idées. L'immigration en question. Le chef de l'État dit vouloir refonder Schengen. Eh bien nous, on se penchera sur les vrais chiffres de l'immigration du travail. Pourquoi la France a-t-elle besoin de faire appel aux étrangers pour faire tourner l'économie? Faut-il plus de quotas, comme le souhaite le gouvernement? On en débattra avec nos invités. Le journal d'abord, avec vous Isabelle Millet. 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et on ne connaît toujours pas le nom du nouveau président américain. Le décompte des voix se poursuit, les deux camps s'impatientent.
Biden y croit, mais Trump ne lâche rien.
Et Didier François nous dira que quoi qu'il arrive, Trump va contester en justice, mais qu'il risque de se retrouver bien seul, car son parti ne le soutiendra pas dans ce combat.
En France, Olivier Véran, le ministre de la Santé, alarmiste. Plus de 58 000 contaminations, dit-il, en 24 heures. 85% de lits de réanimation occupés. Surtout, respectons le confinement, c'est le mot d'ordre.
Et qui dit confinement dit télétravail, bien souvent. Une pratique qui, attention, augmente les risques d'addiction, alcool, cigarettes et drogues.
Au sommaire également, la réclusion criminelle à perpétuité contre Sid Ahmed Glam au procès de l'assassinat d'Aurélie Chatelain et de l'attentat avorté contre une église de Villejuif.
Et puis le tennis au Masters 1000 de Paris-Bercy et le nouvel exploit du français Hugo Humbert.
La tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint. Chouette, chouette. On annonce un vendredi printanier dans le sud.
Oui, effectivement, beaucoup de soleil, Julien, sur la moitié sud, des températures en hausse. On va passer la barre des 20 degrés. Sur la moitié nord, je vous rassure, le soleil sera bien au rendez-vous, mais l'atmosphère sera un peu plus fraîche. Gardez vos pulls et vos écharpes, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et non, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous donner le nom du nouveau président américain.
Eh oui, il faudra encore patienter. Certains disent quelques heures, d'autres quelques jours. C'est un peu déstabilisant, hein, mais c'est comme ça et c'est très compliqué. C'est toujours comme ça, les élections aux États-Unis. Il reste quelques dizaines de milliers de voix, hein, de votes à dépouiller. Pour l'instant, avantage Biden.
Mais Donald Trump, on le sait, n'a pas du tout l'intention de laisser Biden s'asseoir derrière le bureau ovale.
Ah ça non, hein, et comme il voit que la situation semble lui échapper, eh bien le président américain utilise son arme préférée, Twitter, Xavier Yvon, pour réclamer une nouvelle fois que l'on stoppe le comptage.
Oui, et pas seulement. Donald Trump a envoyé deux tweets en lettres capitales, ce qui montre qu'il est très énervé. Le premier, c'est effectivement qu'on arrête de compter les bulletins. Où on ne sait pas trop, parce qu'il y a des endroits où si on arrête de compter les bulletins, il a perdu. Le deuxième tweet, c'est pour dire qu'il va attaquer en justice tous les États où Joe Biden pourrait gagner, parce que, dit le président américain, il y a des fraudes, il dit qu'il y a des preuves, on ne les a pas encore vues, mais ça montre qu'il y a dans le camp Trump de la fébrilité, de la frustration, et ça contraste avec ce qu'on voit dans le camp Biden, une sorte de sérénité et d'optimisme. La directrice de campagne de Joe Biden a dit qu'il voyait leur candidat loin devant à la fin des comptes, enfin loin devant avec un écart conséquent à la fin du comptage en Pennsylvanie. Et Joe Biden lui-même a tweeté, lui aussi, un message donc beaucoup plus serein que Donald Trump. Il a demandé de la patience aux Américains, il a dit qu'on allait compter tous les votes et qu'à la fin, il sentait bien que ce serait bon pour lui. Et vous voyez, donc deux camps, deux attitudes, et pendant ce temps, la course de petits chevaux continue, ou le but par but, si on peut dire, sur les télés américaines. Et là, je peux vous dire qu'en gros, on est à une légère remontée de Joe Biden dans le Nevada et à un léger resserrement de l'écart entre Trump et Biden en Géorgie.
C'est une belle image, hein, la course de petits chevaux ou le but par but. Merci beaucoup Xavier Yvon en direct de New York. Alors d'un côté donc des démocrates qui s'impatientent, de l'autre des républicains qui sont de plus en plus nerveux et qui ne parlent que de recomptage et au milieu de tout ça, Donald Trump qui lui ne parle que de fraude et de trucage.
Oui, bonsoir Didier François, bonsoir. Vous nous avez rejoint. Alors c'est vrai que vous le disiez hier que ça allait traîner, eh bien vous aviez raison. Cher Didier, ça traîne.
Voilà, comme disait Xavier Yon, il n'y a pas de double 6 hein, là, sur les petits chevaux. Alors, 143 millions de votes dépouillés à cette heure, mais il en reste presque 20 millions à traiter. Toujours ces fameux votes par correspondance, dont certains ne sont pas arrivés dans les bureaux, puisque certains États, comme le Nevada, par exemple, qui est l'un de ces États pivots dans la bataille, les bulletins envoyés avant la date des élections, cachés de poste faisant foi, bien entendu, peuvent être pris en compte jusqu'au 10 novembre. Ça fait quand même 5 jours. Alors évidemment, on aura une idée générale du résultat avant cette date, parce que malgré tout, le dépouillement va bon train et en fait, tout va se jouer dans 5 États qui ont pratiquement terminé leurs opérations de dépouillement, donc le Nevada, l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie et la Pennsylvanie. Le Wisconsin, lui, vient de publier ses résultats qui donnent la victoire et donc 10 grands électeurs supplémentaires à Joe Biden. Il en a désormais 253, il en faut 270 pour être élu. Mais ce dernier résultat provoque évidemment la réaction de Donald Trump qui exige le recomptage. La différence de voix entre les deux candidats étant inférieure au 1%, et bien il va l'obtenir. C'est le droit.
Ce que vous nous dites, c'est qu'on entre donc déjà dans la phase des contestations du résultat des élections, alors même que les dépouillements ne sont pas encore totalement terminés.
Exactement, ce que vient de nous expliquer Xavier Yvon, hein, c'est le cœur de la stratégie élaborée depuis de longs mois par Donald Trump, et il va multiplier ses procédures, les recours, pour tenter de faire rentrer dans la danse la Cour suprême, parce qu'il espère qu'elle tranchera les litiges en sa faveur. Le problème, c'est que cette stratégie extrêmement brutale, mais surtout très personnelle, gêne les élus républicains, parce qu'à ce stade, on ne peut pas dire qu'ils suivent véritablement leur président sur ce terrain. Attaquer violemment Joe Biden, honnêtement, ça ne leur pose pas de problème, c'est le candidat démocrate, ils sont conservateurs, ils assument. En revanche, mener une campagne pour remettre en cause le vote par correspondance, qui est un des fondements de ces élections, et c'est en fait saper la légitimité même de cette consultation. Or, les républicains s'en sortent pourtant assez bien. Ils gagnent 5 nouveaux élus au Congrès et ils maintiennent leur majorité au Sénat. Ils ne sont pas particulièrement portés à vouloir jeter le discrédit sur la validité de ce scrutin.
D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que Donald Trump aurait contesté le résultat s'il avait gagné ? Pas sûr, hein ? Pas sûr.
Pas certain.
Pas certain. Merci Didier. L'œil de Didier. Merci. François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. L'autre grande actualité de cette soirée, c'est le verdict au procès de l'assassinat d'Aurélie Chatelain et de l'attentat avorté contre une église de Villejuif. C'était en 2015.
Et on va retrouver en direct Justin Morin. Justin, le principal accusé, Sid Ahmed Glam, écope de la réclusion criminelle à perpétuité.
Oui, Sid Ahmed Glam a été jugé coupable de l'assassinat d'Aurélie Chatelain, coupable aussi de tentative d'assassinat dans 2 églises de Villejuif où il projetait de commettre un attentat le dimanche 19 avril 2015. Dans le box, comme depuis le début de l'audience, on ne lit rien sur son visage à l'énoncé de ce verdict. Pourtant, face à lui, les parents, les proches d'Aurélie Chatelain, eux, s'enlacent et pleurent cette victoire judiciaire après 5 semaines de débats extrêmement douloureux pour eux ici, devant cette cour d'assises spéciale. Enfin, il était temps, a d'abord réagi la belle-mère de la victime, avant qu'une proche lance un cri « On t'aime Aurélie » dans la salle d'audience. À la sortie, sa mère, Marie-Evelyne Lerouge, y pensait, elle aussi, évidemment.
Ça représente un soulagement, mais uniquement un soulagement, quoi, parce que ça ne me rendra pas ma fille, quoi. Bon, c'est lui, tout prouve que c'est lui, mais on a toujours quelque part dans un coin de sa tête un petit doute. Et j'aurais préféré qu'il le dise, mais il ne dira pas. C'est tout. Pas c'est qu'il ne pourra plus faire de mal autour de lui. Voilà.
Un fait assez surprenant, les avocats de Sid Ahmed Glam n'étaient pas tous présents ce soir, mais l'un d'eux nous a confié qu'ils feront très certainement appel de ce verdict.
Merci Justin Morin en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et la suite de votre journal avec Isabelle Millet à 19h09, on parle de cette deuxième vague, la vague sanitaire bien sûr, elle est là et elle est violente, le Covid, confirmation ce soir du ministre de la Santé Olivier Véran.
Oui, qui lors de sa conférence de presse hebdomadaire, hein, il y a quelques instants, a de nouveau dressé un tableau plutôt très sombre, hein, de la situation actuelle, Virginie Salmen.
Oui, la situation, elle est tendue, c'est rien de le dire, selon le ministre de la Santé. La France est le pays d'Europe avec le plus grand nombre de cas. Les derniers chiffres, ce sont plus de 58 000 nouvelles contaminations en 24 heures. 447 personnes viennent d'entrer en réanimation. Le ministre Olivier Véran insiste sur l'extrême gravité de ces cas. Pour faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de respecter ce confinement, il rappelle qu'un quart des personnes qui entrent en réanimation n'en ressortiront pas.
Ces derniers jours, ces dernières semaines, on a entendu beaucoup de personnes dire que finalement, si on avait plus de lits de réanimation, on ne se poserait pas la question du confinement et qu'il suffirait d'admettre ces patients en réanimation pour passer la vague. Pourquoi il ne suffirait pas de doubler, tripler le nombre de lits de réanimation ? Parce que la réanimation, c'est tout sauf un acte anodin. La réanimation, quand on y entre, on n'est pas sûr de pouvoir en sortir.
Réanimation occupée dans tous les hôpitaux de France. Alors, pas question à ce stade de revenir sur l'ouverture des écoles. Nous voulons pérenniser l'éducation, a insisté le ministre. D'ailleurs, l'OMS a rappelé aujourd'hui, a appelé à garder les écoles ouvertes et à ne les fermer qu'en dernier ressort. La situation épidémiologique est grave, mais nous devons tenir et nous allons tenir, a conclu Olivier Véran.
Merci Virginie Salmen du service Société d'Europe 1.
À Paris, un nouveau serrage de vis.
Oui, dans la capitale et dans la petite couronne. Pour stopper les attroupements nocturnes, les débits de boissons, les les épiceries ou les commerces de restauration à emporter devront désormais fermer à 22h. Et puis Virginie évoquait à l'instant l'éducation. Et bien, dans le journal de 18h, on nous disait que le ministre de l'Éducation allait lui s'adresser aux enseignants qui appellent à une grève sanitaire mardi prochain pour dénoncer le protocole sanitaire qui ne permet pas, selon eux, de respecter les gestes barrières élémentaires.
Oui, Jean-Michel Blanquer qui s'adressera aussi aux élèves qui sont nombreux aussi à faire part de leur inquiétude.
Et ce protocole sanitaire, eh bien, il devrait évoluer donc dans les prochains jours avec sans doute des classes par demi-groupe ou bien des élèves une semaine à l'école et une semaine à la maison.
Et alors que de nombreux Français sont actuellement en télétravail, cette étude inquiétante.
Étude qui montre que travailler chez soi expose les salariés déjà fragilisés à un danger supplémentaire face à des pratiques addictives, alcool, tabac ou cannabis. C'est le cas pour 4 salariés sur 10, Laura Taouchanoff.
Oui, c'est le cas de Patrick. Pendant le premier confinement, il avait sa routine tous les matins, une douche, le rasage. Et puis, il s'installait même à son bureau pour télétravailler. Mais sans la présence de ses collègues, les problèmes d'alcool de ce cinquantenaire se sont aggravés.
Le télétravail, pour moi, est épouvantable parce qu'il n'y a plus de barrières. On s'octroie tous les droits, en fait. Quand vous êtes derrière l'ordinateur à taper sur un clavier, si vous devez retaper 4 fois le mot, personne ne s'en rendra compte. Un jour, j'ai été à une première visioconférence dans un état... pas très bon, et la deuxième visioconférence, j'étais pas là, et la troisième, j'étais pas là non plus. Je n'ai aucune envie de replonger.
Ce qu'a vécu Patrick pendant ce premier confinement, beaucoup de salariés risquent de le vivre aujourd'hui. Selon l'étude, près de 7 Français sur 10 boivent plus d'alcool lorsqu'ils travaillent chez eux. Mais il y a des solutions pour éviter ces addictions, selon Ariane Pomery de Villeneuve, qui s'occupe de patients alcooliques à l'hôpital Bichat à Paris.
Le lien social diminue, or l'addiction, c'est la maladie du lien. Donc pour éviter cet isolement social, c'est se forcer à appeler des gens. C'est déjà une bonne aide. Moi, je vois bien dans mes accompagnements, les patients, une fois qu'ils ont parlé, ils me disent systématiquement que ça a fait diminuer leur envie de consommation.
Pour s'en sortir, il faut aussi se faire aider. Or, ce que montre l'étude qui a interrogé des managers, c'est qu'une addiction se détecte plus difficilement à distance.
Laura Taouchanoff.
Les Marseillais commémorent les 2 ans du drame de la rue d'Aubagne.
Alors que des centaines de personnes n'ont toujours pas été relogées et vivent encore dans des appartements provisoires ou bien à l'hôtel.
La disparition du metteur en scène Jean-Pierre Vincent, l'un des plus grands noms du théâtre français.
Ancien compagnon de route de Patrice Chéreau, il avait notamment dirigé le Théâtre National de Strasbourg et celui des Amandiers à Nanterre.
Les sports maintenant, Isabelle.
Le foot, place à la Ligue Europa ce soir. Nice se déplace à Prague et Lille sur la pelouse de l'AC Milan. Et puis une première convocation chez les Bleus pour Marcus Thuram, le fils de l'ancien défenseur international Lilian Thuram, convoqué donc par Didier Deschamps pour le match amical de mercredi prochain contre la Finlande et pour les rencontres de Ligue des Nations contre le Portugal le samedi 14 et contre la Suède le mardi 17. Marcus Thuram qui joue avant-centre au Borussia Mönchengladbach, il a 23 ans.
Pas mal la prononciation. Et quand on est le fils de Thuram qui a gagné le Mondial en 98, on doit avoir une petite pression quand on rentre sur le terrain. Sans oublier, Isabelle, le Master 1000 de Paris-Bercy.
Où l'on vous retrouve en direct, Corinne Boulou. Corinne, avec un nouvel exploit cet après-midi, d'Hugo Humbert.
Oui, il est en réussite, le jeune Messin de 22 ans et en confiance. 34e mondial, il est arrivé ici avec un titre en poche au tournoi d'Anvers récemment. Et sur sa lancée, eh bien, Hugo Humbert s'est montré solide pour se hisser en quart de finale, en éliminant notamment le grec Tsitsipas, 6e mondial. Et aujourd'hui, le croate Cilic, de 10 ans son aîné, demi-finaliste ici en 2016. Le jeune gaucher français s'appuie sur un service efficace et sur une rapidité d'exécution qui, sur cette surface rapide, font mouche, même entamé physiquement. Hugo Humbert.
Physiquement, c'était un peu plus dur aujourd'hui. Je savais que ça allait être un peu plus compliqué parce que mes 2 premiers matchs, ils n'ont pas été faciles. J'ai essayé de trouver les ressources aujourd'hui et surtout mentalement. Voilà, j'ai cru du début à la fin. Et c'est génial, hein, c'est top. C'est la première fois que je suis en quart d'un Master 1000. Ouais, je suis content, vraiment très content d'être en quart ici.
Et il le peut. Demain, Hugo Humbert aura face à lui une autre pointure, le Canadien Milos Raonic, 17e mondial. Mais pas de quoi effrayer notre jeune Français, vous l'aurez compris.
On espère en tout cas. Merci Corinne, en direct de ce Masters 1000 de Paris-Bercy.
Et merci à vous Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h dans Europe Soir, la météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Et voilà, Anissa, tout va bien demain. En plus du soleil, les températures remontent. Bon, c'est dans le sud, mais c'est déjà pas mal.
Grâce à un régime de flux de sud que nous allons avoir demain, effectivement sur la moitié sud, nous aurons par exemple 22 degrés à Biarritz sous le soleil, 21 à Marseille, 19 à Clermont-Ferrand. Sur la moitié nord, c'est un petit peu plus frais, avec 15 à Brest, 13 à Paris et Nancy,
12 à Lille, 11 à Strasbourg. Et le matin, nous aurons encore des valeurs négatives demain matin avec moins 1 degré à Charleville-Mézières, des gelées blanches sur le nord et le nord-est, 3 degrés à Paris seulement, c'est frais, et 13 à Nice. Alors dans le ciel, après la dissipation comme aujourd'hui des nombreux brouillards matinaux, prudence hein, si vous devez prendre la route, eh bien le soleil va s'imposer. Attention, des brouillards s'imposent sur le Val-de-Saône. Dans le Languedoc et les Pyrénées, le ciel sera couvert demain avec de la pluie et le vent d'autant qui se renforce demain avec des rafales à 100 km/h. Mais je vais vous quitter sur une bonne nouvelle. La moitié nord, soyez patients, les températures remontent ce week-end.
Ah bah formidable, quand on est chez nous, voilà. Confiné. Merci, c'est déjà pas mal, on ouvre les fenêtres. Merci Anissa.
À demain.
19h16, on ouvre comme chaque soir le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Ce soir, c'est avec Alexandre Malafaille qui est à mes côtés, écrivain, entrepreneur et patron du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, cher Alexandre, coup de griffe au gouvernement pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire, dites-vous.
Alors c'est un coup de griffe, c'est aussi un coup d'inquiétude en fait que je veux partager avec vous. Parce qu'en fait, ce virus, on commence à le connaître, il a un caractère saisonnier qui devient évident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime bien l'automne, il aime bien l'hiver pour prospérer et il va certainement s'installer dans la durée. Alors quand on regarde la crise dans laquelle on est aujourd'hui, crise exceptionnelle, d'une ampleur inouïe, voilà, oui. On peut prendre la mesure du fait qu'elle devient durable. Et donc, dans ce cadre-là, si elle dure jusqu'au printemps, jusqu'à l'été, moi, je considère aujourd'hui que les mesures du gouvernement, dans leur ensemble, avec le cumul que l'on a entre privation de liberté, travail compliqué, télétravail qui devient parfois pour beaucoup insupportable, la famille qu'on peut ne plus voir, le commerce qui est bloqué, les voyages qui sont interdits, les loisirs aussi, voilà, ce cumul-là n'est pas tenable. Et la perspective, en fait, à terme, pour les Français, c'est quoi? C'est finalement mourir du Covid, mourir de faim pour ceux qui vont passer dans la très grande pauvreté, ou mourir d'ennui. Alors, je plaisante un peu, mais voilà.
Mais le président de la République a dit quoi qu'il en coûte. Donc, c'est tenable, non, sur un plan économique?
Alors, sur un plan économique, c'est tenable, mais Julien, quoi qu'il en coûte, ça finit par coûter cher, très cher. Il y a une limite à ça. Et puis l'État ne peut pas faire que du palliatif. Regardez aujourd'hui l'annonce avec les libraires. L'État a décidé qu'il allait prendre en charge les frais de livraison des libraires qui sont censés être fermés, etc. Ça, à un moment donné, c'est du bidouillage. C'est symbolique, mais c'est surtout compliqué à gérer. Et puis, c'est ubuesque, quoi. Et puis, on est dans une problématique de balance aujourd'hui qu'il faut mettre en perspective, parce que ce n'est pas qu'une question de déficit public. Regardez aujourd'hui l'explosion de la grande pauvreté. Oui. 1 million de personnes en France sont devenues très pauvres. Et donc, on a d'un côté des morts, des milliers de morts, mais on a aussi 20 fois plus de pauvres. Alors, ça, c'est un sujet.
Qu'est-ce qu'on fait, Alexandre, face à cela? Est-ce qu'on laisse l'économie repartir? Parce qu'en même temps, Olivier Véran nous dit encore ce soir que l'épidémie galope et fait des morts.
C'est vrai que c'est compliqué, mais je crois qu'il faut y réfléchir. Il faut réfléchir ensemble, mais pas simplement avec des médecins ou les tableaux de l'Institut Pasteur. Il y a une vraie question, c'est, de mon point de vue, comment trouver un équilibre qui soit durable? Comment on peut vivre avec le virus et en même temps adopter nos modes de vie, ralentir, mais pas arrêter de vivre et pas être dans cette logique de stop and go où on confine, on déconfine. Voilà, ça, je pense que sinon, c'est compliqué. Et puis, on ne peut pas imaginer un grand lâcher de Français 15 jours avant Noël, ce ne serait pas non plus raisonnable.
Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire en pratique?
Alors, quelques idées, quelques pistes de réflexion. D'abord, bien sûr, l'ouverture contrôlée des commerces, parce que tout ne peut pas être fait par Amazon, des livreurs et du click and collect, ça, c'est clair. Il faut également, je pense, peut-être donner du temps aux Français, dans le cadre de ceux qui travaillent, pour aller effectuer leurs courses de Noël de manière beaucoup plus échelonnée. Je pense qu'il faut augmenter les cadences dans le métro, les bus et les RER à Paris. Là, il y a un vrai sujet dont on ne veut pas trop parler. Il faut sans doute, bien sûr, en parallèle de ça, responsabiliser encore les Français, leur demander, bien sûr, de respecter les règles de confinement. Ça, c'est très clair, ça va de soi.
Et si ça ne fonctionne pas, Alexandre Malafaille, qu'est-ce qu'on fait?
Et j'allais dire, et si ça marchait? Et si ça valait le coup de prendre un peu de risque, puisque ce virus, de toute façon, il est saisonnier, il va s'installer dans la durée. Et si on redonnait aussi au passage un peu d'espoir à tous ceux qui perdent tout, qui vont tout perdre et qui peuvent devenir une menace pour la stabilité républicaine, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à continuer à faire ce que fait le gouvernement, piloter à vue, en toute transparence, mais en prenant quelques risques, rechercher le meilleur équilibre possible dans l'intérêt de tous? De mon point de vue, par rapport à cette crise qui est durable, pour la rendre tenable, il faut travailler sur dans cet axe-là, sinon on va affaiblir durablement ce qu'on appelle la résilience de la nation.
Bien, merci pour ce coup de griffe et cette inquiétude que vous nous avez partagée ce soir, Alexandre merci, Malafaille.
Julien. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22 ce soir dans le débat du Club des idées, on s'arrête sur les vrais chiffres de l'immigration du travail. La question migratoire est au centre des débats, vous le savez, en ce moment. Ce matin, le chef de l'État a dit vouloir refonder Schengen et la règle de libre circulation des étrangers non européens au nom de la lutte, dit-il, antiterroriste. Alors au-delà de ces questions, quelle est la réalité de l'immigration du travail que l'on dit nécessaire pour faire tourner notre économie? On en parle ce soir avec Jean-Christophe Repond, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec François Jemaine, chercheur et spécialiste des questions de migration, auteur de « On a tous un ami noir », c'est aux éditions Fayard. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on en parle également avec Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais commencer par vous poser la question sans détour aux uns et aux autres. D'abord, est-il vrai qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui en France qui justifie que l'on fasse appel à des travailleurs immigrés ? Parce que c'est vrai que c'est un paradoxe dans un pays qui compte plus de 4 millions de chômeurs. Jean-Christophe Repond.
En toute sincérité, pour le moment, avec la crise Covid et nous sortant quand même dans le bâtiment de 10 années de difficultés, on n'a pas une nécessité, un besoin de main-d'œuvre en masse. On a besoin de plus en plus de technicité, de compétences. Oui. Ça, oui, une montée en compétences énorme, puisque les métiers du bâtiment ont vraiment évolué et on a de moins en moins de pousse-brouette. On a vraiment besoin de compétences. Donc, en masse, le bâtiment actuellement n'est pas en pénurie de main-d'œuvre. Il a besoin de chercher des compétences et de faire matcher les besoins dans les territoires. C'est ça que je pense qu'on a le
Mais
plus.
Mais si on élargit la focale et qu'on regarde la photographie d'ensemble au-delà de la crise sanitaire, je repose ma question. Est-ce que sans la main-d'œuvre venu d'ailleurs, la main-d'œuvre étrangère, est-ce qu'on arrive à faire tourner la boutique ?
Oui, dans le bâtiment, sans problème. On a les chiffres de Pôle emploi, alors qu'ils sont peut-être des fois un peu contradictoires, mais le potentiel dans le périmètre de Pôle emploi d'avoir à peu près 400 000 demandeurs d'emploi qui demandent de venir dans le bâtiment.
Je vous pose la question parce que le président de la République, dans une interview à Valeurs Actuelles, qu'avait d'ailleurs fait un certain bruit, avait dit « les secteurs de la restauration et du BTP ne fonctionnent pas sans l'immigration, prétendre l'inverse, c'est faux ».
Alors, historiquement, je serais prétentieux de dire l'inverse, puisque c'est vrai qu'on a toujours absorbé des flux migratoires assez importants dans le bâtiment. Mais moi, les chiffres que j'ai actuellement sur la demande de main-d'œuvre n'est pas nécessaire sur un flux migratoire de masse.
Jean-Christophe Dumont, même question, chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Votre avis ?
Alors, en fait, il faut distinguer quand même plusieurs catégories de migrants. Vous parlez spécifiquement des migrants de travail, de ceux qui arrivent à être donc une offre de travail et obtiennent un permis de travail. Mais en fait, ces personnes, même si leur nombre a beaucoup augmenté ces dernières années, on parle d'environ 40 000 personnes récemment, représentent une très petite partie du flux. Par exemple, les migrants familiaux, ceux qui rentrent parce qu'ils ont épousé un Français ou parce qu'ils sont conjoints d'un étranger, représentent deux fois plus d'entrées sur le marché du travail en France. Les migrants européens, jusqu'à quatre fois plus. Donc en fait, quand on fait cette remarque, elle s'applique à l'ensemble des immigrés qui sont en France et effectivement dans certains secteurs le bâtiment c'est vrai mais c'est peut-être encore plus vrai par exemple dans l'aide aux services domestiques que ce soit pour la garde d'enfants ou pour les ménages dans les secteurs de sécurité, dans les secteurs de nettoyage, autant de secteurs
donc il y a un besoin tout de même, il y a un besoin, c'est ce que vous dites.
Pardon ?
Il y a un besoin, je dis. Je vais faire réagir François Jemaine, qui est à mes côtés, chercheur spécialiste des questions de migration. Il y a un besoin quand même. Il y aurait en France entre 300 000 et 400 000 emplois non pourvus. Et Pôle emploi, on l'évoquait tout à l'heure, affirme que 50% des entreprises ont aujourd'hui des difficultés à recruter. D'où ce besoin, parfois, de main-d'œuvre étrangère.
On l'a très bien vu pendant la crise du Covid et le confinement. On a très bien vu comment certaines professions étaient exercées dans une large proportion par des travailleurs étrangers. Si je prends les soignants, par exemple, à la fois les médecins et les infirmiers et les infirmières, c'est à peu près 15% des personnels soignants en France qui ne sont pas nés en France. Si je prends la question des livreurs, des services, de la sécurité, on voit bien aussi que ce sont largement des travailleurs étrangers. On a vu à quel point les agriculteurs étaient dans la difficulté quand ils ne pouvaient pas faire venir de l'étranger les travailleurs qui venaient récolter normalement les
comment
vendanges.
Vous expliquez qu'on soit obligé de faire appel à des travailleurs étrangers alors qu'il y a, pardon de me répéter, 4 millions de chômeurs en France?
Alors, les travailleurs étrangers occupent en réalité souvent deux types d'emplois. Soit des emplois très peu qualifiés qui sont délaissés par les Français, soit parce que les conditions de travail sont trop difficiles, soit parce que le salaire ne sont pas suffisamment hauts. Il y a par exemple 30% de maçons qui sont étrangers en France. On sait que c'est un travail difficile. Et puis, les travailleurs étrangers occupent aussi souvent des emplois très qualifiés pour lesquels il n'y a pas suffisamment de travailleurs suffisamment qualifiés en France. C'est le cas des médecins, on connaît la problématique des déserts médicaux. C'est le cas aussi, de façon plus anecdotique, des joueurs de football. Oui. À peu près la moitié des joueurs du championnat de Ligue 1 sont d'origine étrangère. Un tiers des prêtres sont étrangers.
Ils sont moins nombreux que les maçons.
Ce sont des travailleurs très qualifiés.
Des ingénieurs informatiques dans les travailleurs très qualifiés. C'est vrai qu'il y a une grosse proportion de ce type de métier ?
Absolument. Je n'ai pas les chiffres spécifiquement pour les ingénieurs informatiques, mais c'est clairement un métier qui est en tension en France et pour lequel l'économie française a besoin de migration de travail qui reste pour le moment, comme le disait Jean-Christophe Dumont, une très faible part de l'immigration en France. Seuls 14% des migrants en France viennent pour des raisons économiques.
Alors justement, on continue d'en parler après la pause et puis on s'intéressera à cette fameuse question des quotas mis en avant par le gouvernement. 19h28, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on est toujours ensemble dans le débat du Club des Idées. Ce soir, on parle des vrais chiffres de l'immigration, du travail, la question migratoire qui revient sur le devant de la scène après les propos notamment d'Emmanuel Macron. Mais nous, ce soir, nous avons décidé de nous intéresser à cette immigration économique, cette immigration du travail qui, dit-on, serait nécessaire pour faire tourner un certain nombre de secteurs de notre économie. Et se pose notamment la question des quotas. Édouard Philippe, l'an dernier, à la même période, quasiment un an jour pour jour, disait ceci.
Notre volonté, c'est de faire des choix en matière d'accueil. Fixer des objectifs quantitatifs ou des quotas, les deux termes me vont, en matière d'immigration professionnelle. Mettre le paquet sur l'intégration par le travail.
D'abord, François Gemène, chercheur spécialiste des questions de migration, expliquez-nous de quoi s'agit-il, qu'est-ce que c'est que cette histoire de quotas ?
Alors, les quotas, c'est un mécanisme qui est mis en place dans plusieurs pays, notamment au Canada ou en Nouvelle-Zélande, pour attirer des travailleurs, pour faire venir des travailleurs. C'est-à-dire que le Parlement ou une instance va déterminer à l'avance, voilà, on a besoin de X milliers de personnes dans tel ou tel secteur ou en provenance de telle ou telle région, et on va faire venir les gens. C'est par exemple ce que le Canada envisage pour le moment dans le plan de relance post-Covid du Canada. Un des éléments forts, c'est de relancer l'immigration vers le Canada parce qu'ils le voient vraiment au Canada comme une ressource économique.
Parce qu'ils ont des besoins.
Parce qu'ils en ont besoin. Et donc, pour faire tourner l'économie, pour relancer l'économie, leur plan, c'est d'attirer davantage de migrants. Et donc, il faut bien se rendre compte que souvent, quand on parle de quotas aux gens, les gens s'imaginent que c'est pour réduire l'immigration,
oui,
les
oui.
quotas.
En fait, non, c'est pour augmenter.
En réalité, c'est pour l'augmenter et pour fixer, délimiter les secteurs à l'avance. Et attention, les quotas, ça ne concerne qu'une petite partie de l'immigration en France, les 14% dont j'ai parlé.
Mais c'est aussi ce qui nous intéresse ce soir, Jean-Christophe Dumont. C'est une bonne idée, ces quotas ? Vous êtes chef de la division des migrations internationales à l'OCDE ?
Bon, je nuancerai un petit peu parce qu'en fait, les limites numériques ou les quotas sont utilisés dans différents contextes. Ils sont utilisés au Canada, comme ça vient d'être dit, mais dans un cadre spécial, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une offre d'emploi. Donc d'une certaine manière, il faut bien fixer une limite au nombre de personnes qu'on va accueillir puisqu'il n'y a pas la contrainte d'avoir une offre d'emploi pour venir s'installer au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Les limites numériques sont aussi utilisées dans d'autres contextes, par exemple en Espagne ou en Italie, là pour limiter le nombre de personnes qu'on autorise dans certains programmes. Ils ne sont pas utilisés pour limiter l'immigration professionnelle dans son ensemble.
Oui.
Pour la simple et bonne raison, c'est que quand il concerne l'immigration qualifiée, qui fait d'ailleurs la plupart de l'immigration de travail en France, hein, c'est près des deux tiers des permis de travail qui sont donnés à des gens qui étaient précédemment étudiants. Donc là, aucun pays ne cherche à limiter. Cette immigration de travail hautement qualifiée, en fait, il y a une compétition entre les pays de l'OCDE. Et là, le concept de dire qu'on va accueillir seulement un certain nombre d'ingénieurs informaticiens, pour prendre cet exemple, puisque vous citiez tout à l'heure, n'a pas vraiment de sens.
Mais Jean-Christophe,
nous mettrait des bâtons dans les roues.
Oui,
quoi.
On comprend. Jean-Christophe Dumont, simplement, sur les métiers non qualifiés qui participent pour les métiers de service, pour les métiers du bâtiment, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, pardon de revenir à cette question fondamentale, mais pourquoi ne pas former et faire appel à une main-d'œuvre française et aux étrangers, d'ailleurs, qui sont déjà sur le sol français et qui n'ont pas de travail ?
Absolument, et d'ailleurs, il y a quasiment aucun permis de travail qui serait délivré aux gens dans les secteurs que vous venez de mentionner. La plupart des gens qui sont immigrés et qui travaillent dans ces secteurs peu qualifiés, que ce soit l'aide à domicile, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, la sécurité, le nettoyage ou certains métiers non qualifiés du BTP ou dans l'hôtellerie-restauration, sont des gens qui sont sur le territoire et qui y sont à d'autres titres, parce qu'ils sont arrivés comme réfugiés, parce qu'ils sont arrivés membres de famille. Et la probabilité d'obtenir un titre de travail dans un de ces secteurs est très faible, pour la simple et bonne raison que ce qui protège le marché du travail français, pour l'instant, c'est un test du marché du travail. C'est-à-dire qu'avant d'octroyer un permis de travail, on va vérifier qu'il n'y a pas de personne en France, localement, qui peut exercer le même emploi. Et la plupart des cas où c'est demandé pour des permis peu qualifiés, c'est effectivement rejeté. Le problème qui se pose en France, c'est un problème, d'actualisation d'un certain nombre de ces outils. Les outils qu'utilise la France pour gérer sa politique d'immigration de travail sont largement obsolètes. Le meilleur exemple, c'est cette liste de métiers en tension qui date de 2008, n'a jamais été actualisé depuis, y compris pendant la période Covid. Vous imaginez bien que les pays qui sont identifiés en tension dans cette liste de 2008 ne sont plus d'actualité.
Oui, évidemment. Vous êtes d'accord, Jean-Christophe Reponge, vous voyez, hocher de la tête, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Et question connexe, vous, est-ce que vous y êtes favorable ou opposé à ces quotas? Est-ce que vous en avez besoin, en somme?
Sur les quotas, je n'aurais pas la compétence pour me prononcer sur la capacité qu'on a à les mettre en place ou pas. Je dirais juste que moi, je partirais du principe de nos besoins, de nos entreprises. Et ce qu'il est prouvé dans l'artisanat du bâtiment, alors je ne parlais pas dans le spectre complet du bâtiment, oui, et sur les majors, mais pour ce qui me concerne sur l'artisanat du bâtiment, on a de moins en moins de métiers pénibles et difficiles et peu qualifiés. On a de moins en moins de métiers pénibles et peu qualifiés. Je le redis plusieurs fois parce que c'est souvent cette image-là que dégage le bâtiment. Et si on veut que justement des jeunes et des gens s'orientent vers le bâtiment, si on continue à dire que c'est des métiers difficiles, peu qualifiés, on n'aura personne qui va nous rejoindre dans ce secteur-là. Et donc, je vous le dis, et comme l'urgence actuelle, elle est sur la transition énergétique, c'est un challenge très important. C'est pas avec de la main-d'œuvre peu qualifiée qu'on réussira ce challenge-là. Donc, ce qui veut dire que je suis d'accord avec vos interlocuteurs sur les métiers en tension n'ont pas été revus depuis 2008, que nous sortons depuis 10 ans de crise. Donc, c'est pas un flux nécessaire, vital pour nous que l'immigration rapportera au bâtiment. Mmh. Elle le fera pour quelques majors sûrement et sur de la main-d'œuvre détachée, mais sur l'activité artisanale du bâtiment, on a besoin de compétences, de jeunes motivés et de jeunes qui ont envie de faire un parcours dans le bâtiment.
Un autre élément important à rappeler peut-être, oui, c'est que les immigrés qui ne viennent pas pour des raisons économiques doivent aussi travailler, bien entendu. Quand vous venez, oui, en France pour rejoindre votre conjoint ou vos enfants, ben vous devez travailler aussi. Et c'est vrai qu'on a aussi un problème de discrimination dont il faut parler. C'est-à-dire qu'à CV égal pour une même offre d'emploi, un candidat avec un nom à consonance étrangère aura environ 40% de chances en moins d'être convoqué en entretien.
Est-ce que ces nouveaux arrivants, quelle que soit la raison pour laquelle ils arrivent en France, regroupement familial, asile politique, droit d'asile, la France est un pays qui offre, oui, assez généreusement le droit d'asile, ou arriver pour raison économique avec ses quotas notamment, est-ce que ça déstabilise le marché du travail français? Est-ce que ça a un impact réel? Parce que c'est souvent un argument qui est mis en avant quand on en parle dans le débat politique.
Les gens s'imaginent effectivement que le stock d'emplois, c'est une sorte de gâteau dont il faut se partager les parts et que logiquement, plus on est nombreux, plus la part de chacun
est
petite.
Et ça ne fonctionne pas comme ça.
En réalité, on est dans une économie de services, c'est-à-dire qui repose sur la demande de services. Et une économie de services, contrairement à une économie qui reposerait sur l'agriculture ou l'industrie, par exemple, elle dépend des gens et de la dynamique des gens. Et donc, le gâteau n'est pas figé, en réalité. Il évolue sans cesse au fur et à mesure que les gens vont et viennent. Et donc, quelque part, plus il y a de gens qui ont besoin de services, plus le gâteau augmente. Mmh. Et on constate qu'il n'y a pas du tout de compétition entre les travailleurs immigrés et les travailleurs natifs. Il y a une compétition entre travailleurs immigrés et une compétition entre travailleurs natifs, mais pas entre immigrés et natifs. Et on constate aussi...
Donc la vieille rengaine qui dit les travailleurs immigrés
vont voler
les Français, ce n'est pas exact.
Ce n'est pas exact, ce n'est pas du tout vérifié dans la réalité.
Oui.
Et l'autre rengaine qui dit les travailleurs immigrés vont tirer les salaires vers le bas parce qu'ils acceptent d'être mal payés n'est pas vrai non plus, parce que c'est vrai qu'ils vont prendre des emplois souvent au bas de l'échelle des salaires, mais du coup ça va faire remonter un peu les Français dans l'échelle des salaires. Et donc l'impact sur les salaires est très 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 léger et il est plutôt vers le haut.
Bien, on continue d'en parler juste après la pause. 19h39, vous restez avec nous, à tout de suite. Le Club des idées se poursuit.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, le débat du Club des idées qui se poursuit. On s'arrête ce soir sur les vrais chiffres de l'immigration et du travail. Notamment, on en parle après les propos d'Emmanuel Macron qui veut refonder Schengen au nom de la lutte antiterroriste. Mais ça pose évidemment et ça relance le débat sur la question migratoire. Je voudrais, à ce propos, puisque ce soir on essaye de démêler le vrai du faux sur la question migratoire, vous faire écouter ce que disait Nicolas Sarkozy en 2012. C'est au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
Nous ne pouvons plus intégrer. Pas assez de logements, pas assez d'emplois, pas assez d'écoles. Deuxièmement, parce qu'il y a un équilibre des comptes sociaux qui sont en déficit et que nous ne pouvons pas accepter une immigration qui ne serait fondée que sur l'appétence pour les prestations sociales.
Alors, François Jemaine, chercheur spécialiste des questions de migration, question, où est le bon curseur? Parce que c'est un débat qui continue aujourd'hui sur la question migratoire, c'est un sujet inflammable. Où est le bon curseur entre ceux qui veulent limiter les flux migratoires par souci de sécurité et d'intégration, et ceux qui disent non, l'immigration c'est bon pour l'économie, il faut continuer? Où est la réalité?
Je dirais que malheureusement, la question, elle ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a assez peu de contrôle, en réalité, sur les flux migratoires. Il y a toujours cette idée qu'on va pouvoir contrôler les flux migratoires, soit en ouvrant ou en fermant les frontières, soit en augmentant ou en baissant le niveau des aides sociales. Mais ce n'est pas pour ça que les gens viennent, ce n'est pas pour ça que les gens restent. Et donc, les gens ne vont pas renoncer à leur migration parce que la frontière est fermée. Et plus la frontière va être fermée, plus on va renforcer le business des passeurs, puisque les gens auront besoin de quelqu'un pour franchir cette frontière illégalement. Et ce n'est pas non plus le niveau des aides sociales. Ça, on croit souvent aussi que c'est le niveau des aides sociales qui va faire venir les gens. Mais en réalité, les gens ne vont pas investir des milliers d'euros, quitter leur famille, prendre le risque de perdre leur vie parfois sur le trajet, pour toucher quelques centaines d'euros d'allocation familiale. Oui. Ça n'a aucun rôle.
Donc ça ne pèse pas sur
ça ne pèse pas du
les
tout.
Dépenses publiques.
Et donc, il faut accepter l'idée, et je sais que c'est parfois difficile, que les migrations sont une sorte de transformation structurelle. Et que le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de les organiser au mieux, d'intégrer au mieux les immigrés, notamment sur le marché du travail. Mais que si on veut essayer de résister, d'empêcher les migrations, tout ce qu'on va faire, c'est créer des drames humanitaires aux frontières, créer des camps de réfugiés où les gens vont quelque part être livrés eux-mêmes et être livrés, il faut le dire aussi, comme proie à des réseaux islamistes. Et on va aussi créer un véritable chaos aux frontières qui empêchera en réalité de contrôler les années venues. On pense qu'on va avoir plus de sécurité si on ferme les frontières, c'est exactement le contraire.
Vous êtes d'accord, Jean-Christophe Repond, en votre qualité de patron et de représentant des artisans et des petites entreprises du bâtiment ?
Je suis d'accord sur le fait qu'il faut accueillir ces immigrés, et notamment on le fait beaucoup, nous, dans l'apprentissage, dans des jeunes isolés qui viennent réfugiés et dans lesquels on met un cursus vraiment d'apprentissage. Ils montent en compétences et ce sont vraiment des jeunes qui sont volontaires et qui ont une motivation énorme. Donc oui, accepter ces immigrés et les faire monter en compétences pour les accueillir dans nos entreprises, bien évidemment. Je dis que c'est moi la vigilance qu'on doit avoir, c'est vraiment qu'il ne faut pas qu'il y ait, alors vous le disiez que c'était pas possible, du dumping social. Nous, ce que nous refusons dans le bâtiment et notamment
vous en observez vous au sein des entreprises de l'artisanat,
pas dans l'immigration pure, mais rien que dans le milieu européen, on voit bien que la main d'œuvre détachée et la main d'œuvre détachée illégale est des fois une source d'ajustement du niveau de revenus d'entreprises qui font du dumping social
et effectivement
qui acceptent d'être payés au noir, sans être déclarés, peu cher, c'est cela ?
Peu cher sur les droits sociaux au niveau européen, et on voit bien que des fois c'est une variable d'ajustement. Et nous, sur les aides notamment qui vont arriver sur la rénovation, on voudrait bien que les aides publiques qu'on va mettre sur la partie rénovation profitent au maximum aux compétences territoriales, et que la main-d'œuvre détachée, elle ne soit là que pour couvrir une main-d'œuvre qui serait absente.
C'est travail détaché, en réalité, c'est le contraire de l'immigration, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont rester avec un contrat de leur pays de départ, qui sera souvent un pays d'Europe de l'Est où les gens sont forcément moins bien payés qu'en France, et qui vont être envoyés en France pour exercer certaines professions pendant une durée déterminée. Et donc, ce n'est pas du tout des gens qui vont chercher à s'intégrer dans le pays, c'est des gens qui sont toujours reliés par leur contrat de travail au pays de départ. Et donc là, effectivement, il faut mettre un terme à ce système qui engendre du dumping social, vous avez absolument raison.
Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l'OCDE, d'accord avec ce qui vient d'être dit, l'immigration, quelle qu'elle soit, ça ne pèse pas sur les finances publiques et ça ne pénalise pas l'économie ?
Alors, il y a plusieurs points sur ce qui vient d'être dit. Le premier point, c'est que l'immigration en France, et ça peut surprendre, est faible. C'est une personne sur 10 qui est immigrée en France. On est environ à 13-14% dans la moyenne des pays de l'OCDE. C'est environ 0,5% des gens qui arrivent chaque année pour s'installer en France. Ça fait un peu moins de 300 000 personnes. C'est à peu près la moitié
Immigration légale,
mais y compris ceux qui obtiennent le statut de réfugié.
Parce qu'on estime qu'il y a, donc, il y a quoi, 300 000 à peu près
350 000.
Alors ça, c'est des estimations qui ne sont pas, ils ont avéré, mais c'est surtout un stock. Alors que moi, je parlais là d'un flux, c'est-à-dire d'un nombre de nouvelles personnes qui viennent chaque année. Ça représente à peu près la moitié de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc effectivement, c'est vrai que, contredit un peu les idées reçues. L'immigration, la France n'est pas un grand pays d'immigration. Elle a été un grand pays d'immigration. Donc quand on prend les immigrés et leurs enfants, on obtient environ 27% de la population. Donc c'est beaucoup et c'est aussi, non négligeable en comparaison internationale. Cela étant dit, sur l'impact fiscal, on a pléthore d'études et elles montrent toutes que, si vous voulez, l'effet de l'immigration est vraiment un effet de second ordre. On parle de plus ou moins un demi-point de PIB en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont liés, évidemment,
aux politiques migratoires, à leur sélectivité. Est-ce qu'on a des ingénieurs informaticiens ou est-ce qu'on a des migrants familiaux, comme c'est le cas de la France, qui arrivent sans offre de travail, peut-être sans parler la langue, sans parler le français, et qui ont donc plus de difficultés, qui mettent plus de temps à intégrer le marché du travail. Ça prend presque 15 ans pour qu'un migrant familial ait un taux d'emploi à peu près comparable à celui d'un natif. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais même dans ces conditions-là, l'impact fiscal est tout à fait limité, et comme François Gémen le disait précédemment, les gens ne bougent pas pour des prestations sociales, ils bougent pour toute autre raison, des raisons d'études, de famille ou de protection, mais l'impact fiscal est vraiment un effet de second ordre.
François Gémen.
Oui, tout à fait. Peut-être un chiffre utile à rappeler pour les auditeurs, les raisons qui font que les gens viennent en France, il y a un tiers des immigrés qui viennent en France pour y effectuer leurs études. Il y a un autre tiers qui viennent pour ce qu'on appelle le regroupement familial, mais en réalité qui est limité à la famille nucléaire, c'est-à-dire retrouver son conjoint qui est souvent français ou retrouver ses enfants. Et puis, il y a le dernier tiers se répartit en deux catégories, soit qui viennent pour le travail, 14%, soit ceux qui sont protégés au titre humanitaire, soit comme réfugiés, soit avec des protections complémentaires.
Vous avez le sentiment qu'il faut les augmenter, ces quotas, juste pour terminer là-dessus, sur cette immigration du travail ? C'est une nécessité face aux besoins, même si on a bien compris que les métiers sous tension n'étaient pas actualisés depuis un certain nombre d'années ?
Je pense qu'il faut aujourd'hui, si on travaille uniquement sur l'immigration de travail, veiller à ce que cette immigration soit davantage ajustée au marché de l'emploi. Et donc, actualiser la liste des métiers, voir quels sont les métiers en tension, voir quels sont les besoins. Le mieux qu'on puisse faire, c'est vraiment d'essayer d'organiser l'émigration plutôt que d'essayer d'y résister. C'est vraiment en y résistant qu'on va créer des migrations illégales. Oui. Et là, chacun sait bien qu'effectivement, ça pose un problème.
Jean-Christophe Roupon.
Je suis d'accord avec ce point de vue. Nous, je pense que pour la recherche qu'on doit faire, c'est vraiment l'actualisation des métiers en tension. Le travail avec Pôle emploi, sans critiquer Pôle emploi en tant que tel, il y a vraiment des marges de progrès sur qualifier les fichiers de Pôle emploi et arriver à mettre en adéquation les demandes territoriales avec les capacités qu'on aura à absorber dans les territoires.
Vous dites ça parce qu'aujourd'hui, à Pôle emploi, on a du mal à faire matcher, comme on dit, un entrepreneur qui cherche à recruter quelqu'un et une qualification ou une potentielle qualification, parce qu'il y a toute la question de la formation derrière.
Tout à fait. Mais c'est-à-dire que Pôle emploi, c'est tellement un généraliste. Comment vous pouvez demander à quelqu'un, même s'ils ont des spécialités dans le territoire, de travailler sur le bâtiment et les spécificités du bâtiment, les compétences du bâtiment? Nous, on se propose régulièrement de faire des opérations de création d'entreprise ou de retour à l'emploi avec Pôle emploi en leur disant « mais nous, on est en capacité de vous dire ». Quel métier nous manque ? Et derrière, on peut monter en formation des compétences, justement, en disant, profitons de votre demande d'emploi et on vous réamène vers l'emploi. Mais je pense que là, pour le coup, une organisation patronale comme la nôtre, la CAPEB, a un rôle à jouer dans les territoires avec Pôle emploi.
Un petit mot pour terminer, on sort un peu de notre sujet de ce soir, mais sur la crise sanitaire, comment se comportent aujourd'hui les entreprises que vous représentez, de l'artisanat et des entreprises du bâtiment ?
Alors, il est trop tôt pour reparler des chiffres après reconfinement, mais non, comme nous sommes épargnés, nous pouvons travailler, nous. Juste avant ce confinement, on était très heureux d'annoncer un 0,5 de reprise d'activité qui nous aurait fait finir une année 2020 en négatif sur l'activité. Mais malgré cette négative d'activité de 10%, on était arrivé à maintenir l'emploi. Donc, c'était plutôt très satisfaisant. Et on était surtout arrivé à faire ce qui nous est très important dans l'artisanat, c'est de maintenir l'apprentissage. C'est-à-dire, c'est monter en compétences. Donc, on avait même plus d'apprentis qu'en 2019, malgré la crise Covid. Donc c'était, alors les aides d'État ont aidé, bien sûr aidé, mais c'était une grande satisfaction pour nous.
Cette question vraiment de l'apprentissage, c'est un formidable vecteur d'intégration. Il faut se souvenir que la meilleure façon d'intégrer les gens, c'est aussi par le travail et par l'apprentissage. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important.
On aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange sur l'immigration du travail notamment. On se retrouve dans quelques instants avec les archives d'Europe Soir, consacrées évidemment à cette question migratoire. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et 19h53 et on poursuit notre discussion sur l'immigration dans quelques secondes avec les archives. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Et ce soir, c'est Claudia Bertram qui nous a rejoint en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
On revient avec vous sur la création du ministère de l'immigration dans les archives d'Europe Soir et de l'identité nationale. C'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il n'aura duré que 3 ans, mais l'ancien chef de l'État, on s'en souvient, en avait fait l'un des symboles de son quinquennat.
Oui, et ce ministère fait polémique avant même sa création. C'était une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. À quelques semaines du premier tour de la présidentielle, le candidat de l'UMP annonce à la télévision la création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale s'il est élu. En meeting, il développe sa vision.
J'ai prononcé le mot identité nationale. Il y a des valeurs que nous ne sommes pas prêts à brader. La laïcité à la française, ce n'est pas négociable. L'égalité entre l'homme et la femme, ce n'est pas négociable. La liberté de la femme de se marier, de divorcer, ce sont des valeurs avec lesquelles nous ne transigerons jamais. Chacun peut apporter à la France ce qu'il est, mais ces valeurs-là, nous ne voulons pas les négocier.
Son annonce provoque un tollé dans le monde politique et associatif. La combinaison des termes immigration et identité nationale ne passe pas. Vive réaction chez les autres candidats à la présidentielle, comme la socialiste Ségolène Royal qui dénonce un amalgame avec les travailleurs étrangers.
Je trouve assez ignoble de faire cet amalgame entre l'identité française et les travailleurs immigrés étrangers qui viennent ici pour contribuer à la croissance économique de la France et qui, je le rappelle quand même, viennent à la demande des entreprises.
Le candidat centriste François Bayrou s'en émeut également.
On ne peut pas jouer avec des choses comme celle-là. Vous ne pouvez pas mélanger des mots comme immigration et identité nationale. Ou alors c'est que vous avez oublié ce qu'était l'histoire.
Seul le candidat FN Jean-Marie Le Pen approuve la création d'un tel ministère, mais il dénonce, je cite, une opération de racolage sur ses terres.
Et pourtant Claudia, malgré tout cela, malgré la polémique, Nicolas Sarkozy est élu président de la République et il met en œuvre sa promesse électorale.
Oui, Brice Hortefeux, fidèle lieutenant de Nicolas Sarkozy, est donc nommé ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Voilà pour l'intitulé complet. Il regroupe plusieurs prérogatives éclatées jusque-là entre différents ministères. Quelques jours après sa nomination, Brice Hortefeux répond aux questions de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 et il détaille les missions de ce nouveau portefeuille.
Il y a trois piliers. L'aide au développement, parce qu'il faut que l'on aide les pays à donner une perspective d'avenir à leur jeunesse, parce que sinon ils viendront naturellement immigrer. Il faut une maîtrise de l'immigration, parce que notre pays, comme on l'a déjà dit, ne peut pas accueillir, et c'est un ancien Premier ministre socialiste qui l'avait dit, toute la misère du monde sur notre territoire, et en même temps mieux intégrer ceux qui sont en capacité de le faire.
À ce moment-là, les critiques sont toujours vives, notamment dans le monde associatif et universitaire. Des missions fracassantes d'historiens, tribunes et pétitions d'universitaires et intellectuels. Mais Brice Hortefeux déroule son action à la tête du sulfureux ministère. Il se targue de plus de 29 000 reconduites à la frontière en 2008. En janvier 2009, c'est l'ancien socialiste Éric Besson qui lui succède au ministère. Mais les polémiques ne désenflent pas, bien au contraire, notamment avec le débat sur les valeurs de l'identité nationale. Encore, c'était une promesse électorale de Nicolas Sarkozy.
Et je le disais tout à l'heure, Claudia, ce ministère n'aura finalement qu'une très courte histoire.
Oui, lors du remaniement de novembre 2010, le ministère controversé disparaît. Enfin, pas complètement. Si les mots d'identité nationale sont effacés, le portefeuille de l'immigration lui perdure et se retrouve en fait relégué au ministère de l'Intérieur, où est nommé un certain Brice Hortefeux. Les associations qui luttent contre le racisme avaient alors dénoncé un trompe-l'œil.
Merci, Claudia.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, dans une poignée de secondes, le rappel des titres. Et puis juste après, la musique avec Émilie Mazoyer, à ne pas rater, ça nous fait toujours du bien. Salut Émilie, on te retrouve dans un instant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous même lieu, même heure, demain vendredi à partir de 18h. Et d'ici là, on écoute le monde changer, notamment du côté des États-Unis. Tiens, merci de votre fidélité, à demain.